Radio Libertaire 89.4, un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. L'atelier du documentaire, deuxième partie. Poursuite de notre émission avec une interview de Daniel Kupferstein pour son documentaire « Les balles du 14 juillet ». Témoignages et histoires des événements du 14 juillet 1953. Ce jour-là, un défilé parisien se termine tragiquement. Lorsqu'à son point d'arrivée place de la Nation, cette personne meurt sous les balles de la police. Cette interview a été enregistrée le 5 juillet 2017. Le lendemain, à Paris, place de la Nation, un lieu a été dédié à la mémoire des victimes. Vous entendrez quelques extraits enregistrés lors de cette cérémonie.
Place de la Nation, six militants indépendantistes algériens du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et un membre de la CGT ont été tués ce jour-là. Une minute de silence en mémoire des victimes.
Bonjour, donc nous sommes avec Daniel Kupferstein qui a réalisé le film Les balles du 14 juillet 1953, un film qui a été réalisé en 2014 et donc qui a ensuite été suivi d'un livre qui porte le même nom qui vient de sortir aux éditions La Découverte. Alors peut-être on peut commencer par parler de ce film puisque le livre est l'aboutissement finalement de ce projet qui a commencé autour d'un film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue cette envie de parler donc du 14 juillet 1953
Oui, alors c'est simple, c'est simple et complexe en même temps. C'est-à-dire que, en fait, j'étais comme la plupart de vos auditeurs, absolument ignorant de l'histoire du 14 juillet 1953 jusqu'en 2006. C'est-à-dire qu'en 2006, j'étais en train de faire un film sur la répression métro Charonne et j'avais rencontré un témoin à la frontière espagnole, un témoin français, qui avait secouru des gens dans le métro Charonne, etc. Et avant de l'interviewer, il me dit « Mais je vais vous raconter une autre histoire. Il s'est passé un massacre aussi le 14 juillet 1953. » Et un petit peu dans ma tête, je me suis dit « Bah non, c'est pas possible. Il va commencer à me raconter toute sa vie. Je suis là pour Charonne, je suis pas pour autre chose. » parce que des fois, avec des gens un peu âgés, ils partent et puis ils racontent un petit peu toute leur vie. Donc c'était un peu compliqué. Mais je l'ai laissé parler et surtout, je l'ai filmé, ce passage-là. Alors, et puis après, j'ai complètement oublié, on est passé à Charonne et j'ai complètement oublié cette histoire. Sauf que le jour où il y a eu la première de ce film, qui s'appelle « Mourir à Charonne, pourquoi ?», j'ai invité une historienne qui s'appelle Danielle Tartakovsky, avec des témoins qui avaient été dans la manifestation qui s'est terminée donc dramatiquement au métro Charonne. Et on débat, etc. Et puis à un moment, Danielle Tartakovsky, elle se tourne vers moi et puis a dit « Mais Daniel, il faudrait que tu fasses un troisième film. » Alors, petite explication, j'avais déjà fait aussi un film sur le 17 octobre 61, que j'ai appelé « Dissimulation d'un massacre ». Et j'avais fait justement le film sur Charonne pour expliquer les différences et les comparaisons entre les deux manifestations qui ont toujours été confondues l'une et l'autre. Alors voilà, donc c'est pour ça que j'avais fait ce film sur Charonne. Et
juste pour dire quand même pour les auditeurs que Charonne, donc c'est le 8 février 62.
Oui, absolument. Hein. Le 17 octobre 61, c'est la répression contre les Algériens. Et le 8 février 62, c'est la répression contre une manifestation syndicale et politique de la gauche française et qui s'est terminée dramatiquement au métro Charonne, où il y a eu 9 morts. Et les deux manifestations ont été souvent confondues l'une par rapport à l'autre, alors qu'elles sont complètement différentes. Et donc, elle me dit, il faut faire un troisième film sur un autre massacre qui a eu lieu le 14 juillet 53. Alors, tac, ça m'a rappelé l'histoire que j'avais entendue avec ce témoin, 4 ans auparavant. Et c'est là où j'ai fait un peu rigoler toute l'assistance, parce que j'ai dit, parce que j'étais parti sur d'autres films, notamment un film sur le harcèlement dans le travail. Et j'ai dit, non, c'est bon, je ne vais pas devenir le spécialiste des massacres parisiens. Donc, j'ai fait toute la salle s'est marrée, etc. Puis on a continué à parler, etc. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? En tous les cas, 4 mois à peu près après ce débat, un matin, je me suis levé et j'ai réalisé que les plus jeunes des témoins de cette manifestation de 53 devaient avoir 75, 76 ans, 77 ans, les plus jeunes. Hein. Et je me suis dit, mais s'il faut faire un film, bah c'est maintenant, voilà, ou jamais. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, je suis parti sur une histoire qui a duré 4 ans. Voilà.
Alors, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet donc sur les balles du 14 juillet 53, donc comme vous venez de le dire, ce n'est pas la première fois que vous faites des films sur des manifestations et qui violentes, qui se terminent par une répression policière, notamment enfin, autour de l'Algérie. Qu'est-ce qui vous agite comme ça autour de cette thématique ?
Alors, souvent, on me pose la question, est-ce que vous avez des liens particuliers avec l'Algérie ? Alors, bon, pour la petite histoire, il se trouve que j'ai fait en tout que 3 films autour des répressions, autour des questions, enfin, concernant les Algériens ou la guerre d'Algérie. Voilà, je ne suis pas vraiment le spécialiste des massacres parisiens, mais il se trouve qu'effectivement, j'ai fait 3 films. Et souvent, on m'a posé la question, est-ce que tu as un lien particulier avec l'Algérie ? Et en fait, j'ai aucun lien avec l'Algérie d'une manière particulière. Moi, je suis d'origine juive polonaise, né à Paris, athée de l'Est parisien, plutôt au milieu de gauche communiste. Donc, aucun rapport avec l'Algérie, de près ou de loin, d'ailleurs. Mais ce qui m'anime et ce qui m'a toujours animé, en fait, c'est 2 choses. C'est les injustices, le racisme, d'abord, le racisme, les injustices, et puis et l'absence, enfin, l'absence de mémoire ou de témoignage, l'oubli, voilà, et l'oubli. Ça, c'est quelque chose qui m'anime et qui me motive. Alors, ça doit renvoyer peut-être à l'histoire familiale, sûrement, je ne sais pas, mais là, c'est... Il faudrait réfléchir à l'intérieur de mon cerveau pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Mais en tous les cas, pour moi, c'est ça qui m'anime avant tout. Et quand j'ai appris qu'il y avait une manifestation donc en 53 qui s'est terminée avec 7 morts, et puis j'ai retrouvé depuis le nom de 50 blessés par balle, quand j'ai appris ça, c'était tellement insupportable d'entendre ça et de savoir que ça avait disparu de la mémoire collective que j'ai voulu vraiment faire ce film.
Alors, on pourrait se demander pourquoi cet événement tragique hein, du 14 juillet 53 est plus inconnu, enfin totalement oublié par rapport à des événements comme le 17 octobre 61 qui ont fait l'objet déjà de mémoriaux dans les médias. Enfin, on s'est remémoré beaucoup cet événement-là et aussi Charonne qui est assez connue. Alors pourquoi cette tragédie est oubliée ? Enfin, pourquoi ?
Alors, je réponds à cette question, je tente de répondre à cette question plutôt, dans mon livre, d'une manière plus particulière, parce que dans le film, je m'arrête un petit peu à l'événement lui-même, puis l'oubli, et puis aujourd'hui, place de la Nation, c'est l'armée qui montre ses chars. Aujourd'hui, les 14 juillet, le 14 juillet cette année, ça sera place de la Nation, à la même heure où il y a eu le massacre, il y aura l'armée qui va montrer ses chars. Voilà. Donc ça a complètement été oublié. Alors, il y a plein d'explications. Par rapport à l'Algérie, ça a été oublié dans la mesure où ça s'est passé avant le déclenchement de la lutte pour l'indépendance algérienne. hein, puisque elle a commencé la guerre, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie a commencé le 1er novembre 1954. Et donc l'histoire officielle en Algérie, en gros, par rapport à la nouvelle Algérie, commence le 1er novembre 1954. Tout ce qu'il y a avant, il y a un peu cet Yves Guelma en 1945, la révolte de Mokrani, mais tout le reste, voilà, ça. Donc il y a pas en Algérie, c'est personne ne connaît, voilà, personne ne connaît ou quasiment personne ne connaît. En France, ce que m'a dit un historien, Emmanuel Blanchard, il m'a dit qu'il n'y a pas de mémoire sans porteur de mémoire. Et je crois que c'est très juste. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des gens qui sont capables d'entretenir la mémoire, eh ben, cette mémoire disparaît. Quand vous dites, par exemple, que cette histoire n'est pas connue par rapport au 17 octobre 61, mais le 17 octobre 61, juste pendant 30 ans, en France, c'était absolument inconnu. Il a fallu le livre de Didier Deninx, Meurtre pour mémoire, l'énorme travail de Jean-Luc Hénaudy, le procès qu'a voulu intenter Maurice Papon contre Jean-Luc Hénaudy, etc., pour que cette histoire éclate et devienne, redevienne dans notre mémoire collective. Mais pendant 30 ans, par exemple, les premiers mouvements qu'on commençait à honorer, à faire des hommages par rapport à ces manifestations, c'est dans les années 85, pas en 62, pas en 63, pas en 64, en 85. Et encore, comme je vous parlais de la confusion avec Charonne, je me souviens très bien des premiers rassemblements pour la mémoire du 17 octobre 61. Ça se passait où ? Au métro Charonne, alors que en octobre 61, il s'est rien passé au métro Charonne. Voilà. Donc pour vous dire que c'était aussi compliqué. Alors, donc déjà, il y a ça. Ensuite, en 53, il n'y avait pas de guerre en Algérie. Donc, parce que dans les 7 morts, il y a 6 Algériens et un Français. Donc la problématique, elle était plutôt par rapport à la guerre d'Indochine. Ensuite, il y a eu une chose qui était assez importante, c'est que les seuls à pouvoir entretenir cette mémoire pouvaient être le Parti communiste français. Or, à l'époque, en tous les cas. Et à ce moment-là, le Parti communiste français change de ligne entre 1952 et 1953. En tous les cas, c'est Daniel Tartakovsky qui développe ça. Il change de ligne dans une ligne plus, moins ce qu'on va appeler lutte de classe ou classe contre classe, comme il y avait avant en 52, où ils s'affrontaient directement avec la police, etc. Ils font une stratégie plutôt, on va dire aujourd'hui, union de la gauche. C'est-à-dire qu'ils font une attitude de soutien au mouvement syndical, ouvert. Ils veulent s'allier, s'élargir, voilà, en gros. Et ils critiquent la ligne d'avant, c'est notamment Torres qui critique la ligne d'avant, et ils accusent André Marty d'être le responsable, en gros le gauchiste de l'époque, qui va terminer d'ailleurs accusé de flic au sein du parti depuis le début, depuis 1919, etc., enfin 1920, etc. Bref, et il change de ligne. Or, ça arrive juste à ce moment-là. Et donc, petit problème de conception, parce que s'il fallait entretenir cette mémoire, donc forcément dans la violence, c'était compliqué. Or, 15 jours après ce drame du 14 juillet, le 4 août 53, se déclenche en France la plus grande grève dans la fonction publique, les grèves d'août 53 qui paralysent toute la France. Toute la France est paralysée. Et ce mouvement commence avec des postiers de Force ouvrière. Et là, donc, dedans, il y a des militants de la CFTC, de Force ouvrière, évidemment de la CGT. Et ça correspond à la nouvelle ligne développée par le Parti communiste. Donc, très rapidement, un événement chasse l'autre. Les morts de 53, une fois qu'on a fait les enterrements, l'enterrement de Maurice Bureau, une fois que les corps des Algériens se retournent en Algérie, c'est terminé, on n'en parle plus, et une actualité en chasse une autre, et on se retrouve dans les grèves d'août 53, et voilà. Dans mon livre, et un petit peu dans mon film, mais surtout dans mon livre, j'en ajoute une autre, et je crois que c'est valable par rapport au 17 octobre 61. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas une égalité de traitement, j'appelle ça comme ça, entre, quand il s'agit d'un mort algérien et d'un mort français. C'est-à-dire que, comme la plupart des morts, c'était des morts algériens, je pense que dans l'opinion publique, ça a moins de poids que si c'était des morts... le 17 octobre, c'est essentiellement des morts algériens. La première manifestation contre date donc 17 octobre date du 31 octobre, c'est-à-dire 15 jours après, quoi. Enfin, quasiment, voilà, 14 jours après. Donc, du coup, on voit bien, et encore, c'est des petits mouvements, c'est le PSU, le comité Maurice Audin, etc. Donc, on s'aperçoit que c'est la mobilisation, quand ça concerne des, entre guillemets, des étrangers, enfin, à l'époque, les Algériens étaient français, mais quand ça les considère, je pense que là, il y a un vrai problème par rapport à notre regard.
Alors, peut-être. Parlons maintenant de cet événement, enfin de ce qui s'est passé donc le 14 juillet 53, pardon. Donc d'ailleurs le film suit chronologiquement un peu le déroulement de cette manifestation et puis des événements. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulement.
Alors c'est une manifestation classique, c'est-à-dire que depuis 1935, ce que je ne savais pas du tout d'ailleurs, la gauche française, politique et syndicale, manifeste les 14 juillet, c'est-à-dire qu'ils reprennent la date emblématique de la fête nationale comme pour honorer la Révolution française, et ils défilent comme un 1er mai classique, donc c'est un défilé ordinaire, on va dire comme un 1er mai aujourd'hui, pareil, et c'est quelque chose qui est régulier depuis 1935. Évidemment, ça a été interrompu par la Deuxième Guerre mondiale, mais encore, il y a eu des manifestations pendant la guerre, et notamment, il y a eu Yves Toudy qui a été tué parce qu'il y a eu une manifestation à côté de République, Belleville-République, le 14 juillet 1944, donc avant la libération de Paris. Donc voilà, alors évidemment, les 14 juillet en 1945, tout ça, etc., ça a pris une proportion énorme. Le 14 juillet 1936 aussi, c'était énorme. Voilà, c'est-à-dire que c'était quelque chose de régulier qu'on a complètement oublié. Entre parenthèses, ça s'arrête en 1953. C'est le dernier défilé parisien des 14 juillet. Et donc ça se passe, il y a un cortège, on va dire, français, enfin des syndicats et partis politiques français, essentiellement liés au Parti communiste français et Mouvement de la Paix, CGT, qu'est-ce qu'il y a, le Secours populaire, enfin des organismes, l'Union des jeunesses républicaines de France, qui est les jeunesses communistes de l'époque, etc. Voilà, on est dans ce cadre-là. Et il y a derrière, vers la fin, l'ensemble des Algériens qui sont groupés derrière un mouvement qui s'appelle le MTLD, Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, qui est la façade légale du Parti Populaire Algérien, qui est dirigé par Messali Hadj. Et d'après les archives, il y aurait au moins, au minimum, un tiers d'Algériens sur l'ensemble des manifestants. Donc c'est vraiment... leur cortège était énorme. Et on peut dire que c'était complètement différent comme principe de cortège, parce que le cortège des Français était plutôt... c'est une fête populaire, donc il y avait des chants, des danses, les gens étaient joyeux, etc. Les Algériens, c'était pas du tout ça. C'était en rang serré, avec de chaque côté un service d'ordre, avec un brassard, le brassard aux couleurs de l'Algérie, etc. Ils défilaient en carré, par secteur. Il y avait 6 secteurs, etc. Secteur des étudiants, le secteur du 18e, le secteur d'Argenteuil, etc. Suivant leur implantation. Et c'était très, il marchait d'une manière assez militaire, on va dire, voilà. Et donc tout se passe bien, à part qu'il y a une provocation au départ à Bastille de la part de parachutistes, mais en dehors de ça, tout se passe relativement bien jusqu'à la place de la Nation. Et la place de la Nation, la police décide d'aller, au moment de la dispersion des Algériens, alors que les Français s'étaient déjà dispersés, charge le cortège des Algériens, du MTLD, et pour leur arracher banderoles, portraits, parce qu'ils avaient le portrait de Messali Hadj, banderoles, portraits et le drapeau algérien. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les Algériens ne se laissent pas faire. ils tapent, ils répondent à coups de tout ce qu'ils peuvent trouver, des planches, des coups de poing, des machins, etc. Les flics, voyant qu'ils ripostent d'une manière violente, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, les policiers, ils étaient une centaine, alors qu'on compte qu'il y avait en tout, dans la manifestation, peut-être 6 à 8 000 Algériens sur une manifestation entre 15 et 20 000. Vous voyez un peu comment c'était assez important. En tous les cas, on dit que Place de la Nation, il n'y avait pas loin de 2000 Algériens qui ont participé aux événements, comme on dit. Et du coup, ils ne se laissent pas faire. Et les policiers, ils sortent leurs armes et ils tirent directement. Et ils tuent une première fois 2 personnes. Puis après, ils en tuent encore 5 autres.
En arrivant à la Place de la Nation... C'est là qu'il y a eu le malheur. Les premières rangées qui ont beaucoup payé plus cher, on a commencé à frapper avec des crosses. J'ai vu personnellement des militants tomber. Je m'excuse quand j'évoque ça. J'ai vu surtout un. Ils l'ont pris comme si les camarades, c'est les camarades qui l'ont pris. Ils étaient 4. J'ai vu que le sang il sortait de sa bouche. Comme si vous ouvrez une vanne. Là, ça m'est resté dans l'esprit jusqu'à maintenant. Ouais.
À partir de là, il est évident pour moi qu'il fallait chercher à comprendre ce qui s'était exactement passé ce jour-là. Comment une telle répression a pu commencer et surtout reconstituer une grande partie de l'histoire de ce drame.
Le malheur, en arrivant, qui a déclenché le... C'est le drapeau. C'est à cause de le drapeau que comment ça a chauffé entre la police et les manifestants. Il y avait un policier avec son matraque. Tu vois, entre nous, même pas un mètre. Il a frappé un manifestant. Alors ce pauvre malheureux, ce policier...
Il a été happé par la foule.
Non, je ne sais pas. Je me dis au milieu, Charles.
Mais il a plu au moment où ça s'est bagarré, il a plu.
C'est justement parce qu'il a glissé, le policier a glissé dans ça. Il a glissé en voulant nous enlever le drapeau. Il est venu, je ne sais pas, avec une force. Il a glissé. Et quand il a glissé, les policiers ont cru qu'il était mort ou qu'il était... Bon. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à tirer. Certainement, il y avait un policier par peut-être blessé. Quand ils ont vu le sang, ils ont commencé à tirer.
Voilà, je développe tout ça énormément dans le livre, en expliquant un petit peu, selon moi, selon les archives, comment l'un passe par rapport à l'autre, etc. etc.
Voilà. Et du coup, le film suit aussi un peu votre... Il est constitué pas mal d'interviews, de recherches dans les archives. Voilà, on a des interviews d'historiens, on a des interviews de gens qui ont participé à cette manifestation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment la forme vous l'avez déterminée ?
La forme, le problème c'est que comment raconter une histoire quand il n'y a quasiment aucune image ? Hein, parce que je crois qu'il doit y avoir 5-6 photos, dont l'essentiel des photos, c'est des photos où on voit un quart de police qui est brûlé, parce que les manifestants, à un moment, chargent les policiers et puis ils brûlent un quart, manifestants algériens, mais il n'y a presque pas d'image sur la répression, évidemment, puisqu'il y a des photographes qui sont faits casser leur matériel parce qu'ils prenaient des photos d'Algériens ensanglantés. Et donc comment restituer finalement une histoire? Alors on est dans un film documentaire, on n'est pas dans une fiction où on peut avoir des manifestants, des policiers, comédiens qui refont les gestes, etc. Donc il y a deux solutions, soit demander aux gens soit de mimer un petit peu l'endroit, etc. Le problème c'est que Je disais que c'était des gens vieux. Il y en a peu, voilà. Donc j'ai pris le parti de pas trop les secouer, qui me racontent l'histoire le plus simplement possible. Et puis les historiens, ceux qui ont travaillé un petit peu sur l'histoire, pour qu'ils me redonnent le cadre général, voilà. Et donc on passe d'historien à témoin. Et avec tout ce que j'ai pu trouver, voilà. Et puis, on voit un petit peu aussi dans le film ma démarche, quand même. On me voit de dos, on me voit rentrer dans des archives, des trucs comme ça. Donc, on voit un peu. C'est-à-dire qu'on suit un petit peu, dès le départ, ma quête, on va dire, ma quête de vérité sur cette histoire, voilà.
Une enquête, combien de temps elle a duré ?
Bah pour moi, entre le moment où je vous ai raconté où je me lève le matin là, et le moment où j'ai fini, ça a duré 4 ans.
Ah, peut-être oui, c'est ça.
Moment, mais à peine. Hein, ouais. Ah, 4 ans, ouais. Oui, parce que, il n'y a rien. Enfin, il y avait un livre de Maurice Rachfus, mais qui est très bien, hein, mais il n'y a aucun témoignage d'Algériens, par exemple. Dans son livre, il n'y avait que les témoignages de quelques Français qui étaient témoins à ce moment-là. J'ai été obligé de fouiller dans les archives de la police, j'ai été obligé de fouiller dans les archives de la Seine pour avoir le dossier d'instruction auquel je me suis appuyé beaucoup, d'ailleurs, pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Voilà. Et donc, du coup, tout ça, c'est... il faut reconstituer un petit peu les choses, revoir les lieux, voilà. Donc, ça prend du temps. Et puis un des problèmes, c'est que j'ai, comme tout documentariste, on élabore un projet, on l'envoie à des productions, et il n'y a aucune production qui a voulu le prendre. Et du coup, je me suis retrouvé dans un moment en me disant, moi j'avais commencé à contacter les gens et j'avais pas de production. Et donc là, il s'est trouvé à un moment où j'avais un problème de choix. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends, quitte à jamais faire le film, ou est-ce que je prends ma caméra et puis je me démerde quand même, voilà. Et ben j'ai choisi la deuxième solution, et donc j'ai tout fait tout seul, quasiment, enfin pas tout seul, parce qu'à chaque fois il y a des amis qui m'ont aidé, des gens qui ont filmé pour moi, des gens qui m'ont, enfin, quand on regarde dans le film à la fin le générique, je remercie je sais pas combien de personnes, mais on n'est pas loin d'une centaine, voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu un seul centime pour faire le film, par exemple.
Au final, vous avez réussi à le diffuser sur une chaîne de télévision ?
Je n'ai pas cherché pour l'instant à le sortir, parce que justement, d'abord, je voulais le... En fait, tout de suite à la fin du film, je voulais... J'avais tellement accumulé de choses que par rapport à cette histoire qui était inconnue, que je voulais absolument... Je me suis retrouvé un peu le dépositaire d'une histoire que aucun historien connaît... Je connaissais un maximum de choses par rapport à tous les historiens qui ont travaillé dessus. Voilà, c'est-à-dire que j'avais énormément de données, d'informations, etc. Et un film, c'est limité. Un film, par rapport à un sujet historique, c'est forcément limité. C'est un angle, voilà, mais c'est forcément limité. Je pouvais pas donner... Je ne pouvais pas raconter, par exemple, que la plupart des témoins que j'avais rencontrés, qui étaient témoins algériens en 1953, sont engagés dans la FLN et après, ils ont été torturés, par exemple. Donc j'avais envie, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Bon, mais je vais vous raconter un peu comment j'ai été torturé. » Enfin bon, voilà, des choses fortes qui ont été, voilà, pour moi, qui ont été importantes. Et puis... J'avais envie de raconter un petit peu les choses, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais lu, les trucs, je sais pas, par exemple, dans les archives de la police, on a des documents sur des études soi-disant sociologiques, psychologiques, sur comment est un Nord-Africain. Oui, parce que les Algériens, on les appelait Nord-Africains. Et c'est du racisme biologique. Enfin, voilà, on est 8 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand je lis ça, il suffit de mettre la même chose sur les Juifs, c'est pareil, enfin, à quelques variantes près. C'est quasiment... voilà, alors là, c'est des grands-enfants dangereux, etc. Les autres, c'est des... Voilà, ça le, enfin, c'est le, la même haine qu'on retrouve, etc. Donc, c'est des choses que j'avais envie d'écrire. Et du coup, dire. Et donc, du coup, très rapidement, j'ai voulu écrire le livre et je me suis dit que je vais sortir le film en même temps que le livre. Voilà. Et en ce moment, voilà, je viens juste de sortir le film et je cherche un distributeur pour essayer de, à la fois... développer le trouver des librairies tout ça qui pour faire des rencontres les rencontres avec pour présenter mon livre et en même temps je cherche un moyen de distribuer le film en salle voilà à la télé je me suis dit je verrai ça dans un deuxième temps voilà en gros.
Alors, peut-être c'est intéressant aussi de parler de votre point de vue, finalement. Comme vous dites, vous avez cherché un angle. Dans un film, on est obligé de se limiter à un angle précis. On ne peut pas parler de tout. Donc, il y a un parti pris, il y a un point de vue, en tout cas. Peut-être vous pouvez l'expliquer.
Bah déjà, c'est gentil de me dire qu'il y a un point de vue, parce que je me souviens que j'avais envoyé mon projet à une boîte de production qui reflète largement le film, et on m'a répondu en disant que non, on n'allait pas le prendre, qu'il n'y avait pas de point de vue. Donc je suis très content que vous me dites qu'il y a un point de vue. Non, ouais, parce qu'on m'a répondu ça, et c'est une grande maison de production connue. Hein, je ne vais pas dire le nom, mais j'ai eu un peu les boules. Il y a eu ça, et puis il y a eu aussi l'autre truc qui m'exaspérait encore plus, c'est de dire « Ah non, je suis désolé, on ne va pas prendre votre film parce qu'on a déjà fait des choses sur la guerre d'Algérie. » Et j'expliquais, mais c'est avant la guerre d'Algérie. On n'est pas dans la guerre d'Algérie. On est dans une répression massive vis-à-vis essentiellement des Algériens, mais on n'est pas dans la guerre d'Algérie. On est en 1953, la guerre d'Algérie démarre le 1er novembre 1954. Mais non, mais on est dans des cas, on est dans un esprit à la télévision, en tous les cas, de cases, et on a du mal à sortir de ces cases-là. D'ailleurs, déjà, on a des cases 52 minutes. D'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi c'est 52 minutes. On sait que c'est... À l'origine, c'était parce qu'il y avait de la pub avant et de la pub après, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Enfin bon, bref, on est toujours dans ce truc-là. Enfin, c'est un peu risible dans l'histoire. Mais bon. Et alors, la question, c'était quoi ?
Ben, votre point de vue, en fait.
Oui, mon point de vue. Ben, mon point de vue, je suis... je vous ai dit qu'en gros, ce qui m'animait, c'était l'injustice et l'oubli. Donc... forcément, ce point de vue, c'est ce qui doit ressortir dans l'ensemble du film. C'est-à-dire que comment expliquer une injustice et un oubli ? Et du coup, c'est essayer de restituer au mieux l'histoire pour rendre justice et oubli. Alors j'ai eu un petit problème dans la mesure que j'ai interviewé quand même des policiers. Et alors là, se posait la question, on va dire, à la télévision classique, il y a les pour, les contre, on va voir les méchants et les gentils, ou on va voir les policiers, les manifestants, etc. Puis bon, la vérité, elle est au milieu, etc. Mais moi, j'y allais pas pour ça. J'y allais parce que c'était tellement dégueulasse ce qui s'était passé... que je voulais en fait essayer de trouver des policiers qui finalement eux aussi hein, ils avaient dans les 76 minimum en fait ceux que j'ai vus ils avaient 87 je crois 86 ans etc mais oui mais c'était la moyenne hein, quand même hein, quand j'ai dit les plus jeunes c'était 76 et ceux qui avaient 16 ans en 53 hein, c'est une histoire qui a 64 ans maintenant donc voilà donc en fait, j'espérais des gens qui disent, ouais, c'est voilà, qui reviennent en fait vers la fin de leur vie en disant, ouais, on était dégueulasses, etc., etc. C'était un peu ça que je cherchais. Donc, je cherchais pas spécialement à avoir juste leur point de vue comme ça. En tous les cas, c'est comme ça que je voyais les choses. Et j'ai surtout pour un des policiers, j'ai été sur le cul, voilà, c'est mon expression, sur la froideur dans la manière dont il s'exprime pour parler des manifestants. Surtout que moi, j'avais été rencontrer les familles des victimes. Je les avais vues, j'avais compris leur douleur, leur comme on avait arraché quelqu'un, on l'avait tué parce qu'il manifestait, tout simplement. Enfin, je veux dire, dans une manifestation autorisée et légale, hein, je veux dire, elle n'était pas interdite, la manifestation. Et juste. Et la froideur, voilà, quand le policier dit non, on ne tirait pas à l'horizontale, on ne tirait pas en l'air, on tirait à l'horizontale. Et puis la première rangée tombait, et puis la deuxième tombait, le caniveau était rouge, etc., etc. Cette froideur. Je me suis dit, ben voilà, en fait, devant moi, j'ai quelqu'un qui ne considère pas que la personne en face de lui est un humain comme lui. Voilà. Et c'était. Et j'ai voulu le restituer, c'est-à-dire mon regard. Voilà. Et donc, j'ai fait un montage qui essayait de montrer un peu ce sentiment, ce que j'avais ressenti. Voilà. Donc, ça, c'était un peu mon regard. Voilà.
D'ailleurs, c'est vrai que c'est ces deux policiers qui sont très vieux, très âgés, presque allongés. Et la manière dont ils s'expriment.
Il y en a un qui est allongé complètement. Il peut pas, les deux. Et l'autre, il était sur un fauteuil. Il est mort un mois après. Hein, voilà. Et celui qui dit non, on tirait à l'horizontale, celui que j'ai appelé le tueur, lui, il était complètement allongé. Voilà, il était complètement allongé.
Et du coup, c'est vrai que ça donne une impression. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que, même visuellement, hein, en dehors du discours qu'ils peuvent tenir, ils ne sont pas rendus très sympathiques. Enfin, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est aussi le discours hein, qui.
Justement, concernant ces policiers, bon, il y a peu de gens, de ces personnes qui ont vécu cet événement-là, qui sont encore vivants. Mais est-ce que vous avez essayé de contacter d'autres policiers, beaucoup, et j'imagine que vous avez eu des refus. Enfin.
Alors je vais vous expliquer. Donc comment retrouver des policiers? Enfin, on ne peut pas retrouver. Or, il y a eu, je vous ai parlé des archives du dossier d'instruction. Et dans le dossier d'instruction, il y a eu l'ensemble des policiers qui étaient autour de cette place de la Nation, qui ont été auditionnés par d'autres policiers, d'ailleurs, entre parenthèses, où on s'est arrangé avec les phrases qu'ils ont racontées, voilà, puisqu'il y en a 55 qui avouent avoir vu des Algériens avec des balles, ou que les balles venaient, enfin, des tirs venaient des manifestants, alors que aucun manifestant n'a été retrouvé avec une arme, qu'il n'y a eu aucune arme, aucune balle venant, voilà, donc c'est un mensonge total, voilà, donc un mensonge officiel. Il y en a 55 quand même qui témoignent ça sur 240. Et donc j'avais les noms avec leur âge et leur date et leur lieu de naissance. Et en fait, j'ai relevé tous ces noms-là. J'ai viré tous les gens que j'ai considérés qu'ils avaient au-delà de 89 ans, je crois, un truc comme ça. Je m'étais mis une limite, ou 90 ans, je ne sais plus, peut-être 90 ans, en me disant ça servira à rien parce que voilà, ça sera. Mais. Et après, j'ai essayé de chercher par les pages jaunes, mais j'avais des listes, je ne sais pas, je dois avoir. Parce que. J'ai viré aussi tous les noms trop. Tu vois, les Martin-Pierre, les Dupuis, les Durand, tous ces noms-là, je ne sais pas, Jean Grand, tu vois, enfin tout ça. Donc j'ai gardé que les noms qui étaient plus difficile, mais malgré ça, je devais avoir 40 pages de téléphone. Ouais, donc je prenais le téléphone. Et donc j'ai passé plusieurs jours à téléphoner. Voilà, je vous appelle. Et j'ai retrouvé la trace quand même de 9 personnes. Et il y en a plusieurs. Alors il y en avait plusieurs qui étaient décédés depuis peu. Et les autres, il y avait certains qui m'ont répondu en disant « Non, il est hors de question que je parle. » Et puis, il y en avait d'autres qui disaient « Ah non, je ne me souviens plus de rien, etc. » Mais la plupart étaient surpris que je leur parle de ça. Parce que, imaginez, c'est des flics quand même. Donc, je les appelle en disant « Est-ce que vous étiez policier à Paris en 1953 ?» comment vous savez ça? Oui, ils étaient, comment vous savez ça? Bah, je dis, alors oui, je leur disais, bah, c'est dans le dossier d'instruction, j'ai enlevé votre nom, puis j'ai téléphoné. Pas je... Non, ils ne croyaient pas, ils croyaient que c'était, je ne sais pas quoi, une machination, ou... alors que je me suis fait chier à téléphoner, mais je ne sais pas, j'ai dû passer, en tout, j'ai dû passer au moins plus d'une semaine, entière, de toute la journée, à le message, en laissant des messages. Voilà. Et puis les deux là qui sont là, c'est les deux qui ont accepté de témoigner. Je sais pas trop pourquoi ils ont accepté, mais je pense que simplement parce que ils voulaient dire ce qu'ils ont fait, voilà, tout simplement. Le deuxième, il était plus, c'est lui qui accepte. Lui, il a dit que quand même qu'il y avait, il y avait pas de légitime défense. Lui, il a dit qu'il a tiré en l'air. Il y avait des, voilà, la légitime défense, c'est pas une balle dans le dos. Donc voilà. Et puis, quand même, les deux, malgré la froideur notamment d'un, et puis même l'autre, voilà, les deux quand même finalement disent des trucs extraordinaires quand même par rapport à l'histoire. Parce que tout à l'heure, je vous dis, mais non, tout le monde a dit non, tirer en l'air. C'est des Algériens qui ont évidemment la première chose après le drame, c'est que la police, le ministère de l'Intérieur, tout ça, ils ont dit non, mais légitime défense. Voilà, nous, les Algériens nous ont agressés, on s'est défendu. Ils sont morts. Voilà. Et là, ils disent qu'ils ont tous d'un côté. Un peu fabriqué leur témoignage, ils le disent plus ou moins, mais surtout ils disent qu'il y a eu 210 douilles qui ont été ramassées, alors que surtout ils expliquent comment la police s'organise pour pouvoir maquiller le nombre de tirs. Et donc ils balancent carrément, ils disent que les policiers ont été dans un magasin, dans une armurerie, acheter des balles pour les remplir dans leur chargeur pour dire ah ben non, nous on n'a pas tiré. Et ça, c'est un aveu extraordinaire par rapport à la manipulation d'État, au mensonge d'État et à l'attitude de la, enfin, en tous les cas, de la police ce jour-là. C'est assez fort. Donc les deux en même temps balancent. Donc en même temps, ils sont froids, etc. Mais en même temps, ils balancent un truc qui aurait été impossible en 53. Enfin, ça aurait pété. Ils auraient été virés. Enfin, voilà.
Donc il y a aussi beaucoup de témoins algériens. Alors j'imagine que ça a été aussi un gros travail pour les retrouver parce qu'ils ne sont pas forcément en France maintenant. Enfin, et puis certains sont morts, donc vous avez aussi recherché leur famille.
Oui. Eh bien oui, alors là, c'était un peu compliqué. Alors c'était tous les réseaux que je connais algériens, ou des anciens, des machins, enfin bon, voilà, que j'ai pu connaître. Et puis surtout, j'ai passé des annonces dans deux journaux algériens, El Watan et Alger Républicain, en disant je recherche des gens qui ont participé, etc. Et chose extraordinaire, c'est que ça marche bien, parce que j'ai eu des retours, et j'en ai eu plein, j'en ai eu une dizaine. Voilà, donc, et puis après, quand on en connaît un, il me dit « Ah, mais lui, je connais quelqu'un qui a été, etc., etc., voilà, etc. » Et du coup, j'ai pu reconstituer, mais même c'est pareil pour savoir d'où venaient les familles des victimes, parce que les familles des victimes, au départ, j'avais pas leur... Je ne savais pas trop où ils habitaient. Enfin, voilà. En plus, les noms qui étaient indiqués en 53, il y a plein d'erreurs au niveau de l'orthographe. Donc, je ne savais pas. Donc, j'ai fait un gros travail de recherche. J'ai eu quelqu'un qui a fait une petite enquête comme ça pour en Algérie. Et puis, surtout, j'ai été en Algérie où j'ai réussi à rencontrer les familles. Donc j'ai été dans les six endroits en Algérie où j'ai rencontré des familles des six personnes, que ce soit en France ou en Algérie. Voilà. Enfin des sept tués. Quoi. Mais c'est vrai que c'est un gros travail, ça. Quand vous me parliez de 4 ans, ça en fait partie. Hein, on se lance dans une. Ben, on se lance dans une aventure qui, on sait pas, on connaît pas la limite. Hein, voilà.
Et alors, j'imagine, le MTLD, donc, qui a été fondé par Messali Hedj, et qui est devenu ensuite le FLN. Enfin, il y a eu une séparation de ce groupe en deux.
En trois.
Enfin, toujours est-il qu'il y a eu pas mal de conflits à l'intérieur du. En tout cas, entre le parti de Messaliège et puis le FLN.
Oui.
Donc, du coup, ça apparaît pas dans le film. Est-ce que ça apparaît dans le livre?
J'explique. Évidemment, dans le film, j'ai pas pu aller très loin puisqu'on arrivait déjà. Quand on commence à aborder cette question, c'est la question de l'après, en fait. Et l'après, on s'aperçoit que le MTLD, il est déchiré en trois tendances, en fait. Donc, il y a la tendance de Messaliadj, qui est en résidence surveillée à Niort, et la tendance dite des centralistes, c'est-à-dire le comité central du MTLD, qui est accusé par Messaliadj d'être de son bourgeoisie, etc. Et il y a une troisième tendance qui... vient de l'organisation militaire, l'OS, l'organisation spéciale, et c'est elle qui va chambouler l'ensemble de ce conflit entre Messaliadj et le comité central, parce qu'ils vont se réunir pour décider de passer à la lutte armée. Voilà. Donc c'est des jeunes activistes qui rejettent Messaliadj et le comité central, même si au départ ils avaient des liens avec le comité central. Enfin bon, c'est un peu complexe. Et ils déclenchent ce qu'on comprend dans le film, comme dans le livre, c'est que cette histoire contribue aussi à ce que la radicalisation et le passage à la lutte armée. C'est-à-dire que ce que dit un témoin dit si on nous tire dessus dans une manif pacifique, mais alors si on doit risquer notre vie, bah allons-y, offrons notre vie, mais allons jusqu'à la lutte armée, quoi. Allons jusqu'au bout de l'indépendance. Attendons-nous pas de se prendre des balles, simplement défilant pacifiquement, quoi. Voilà. Comme il y a un témoin qui me dit, quand je lui ai dit, mais tu sais que les policiers ont... On dit qu'il y avait une légitime défense, que les Algériens avaient attaqué, etc. Il m'a regardé, il m'a dit, mais si on avait des armes, il y aurait plein de morts du côté des flics, parce qu'ils auraient tiré dans le tas, eux aussi, voilà. Donc, il dit, non, on n'avait rien, on s'est fait tirer dessus, etc. Donc, cette histoire a contribué à un moment à la lutte armée. Le problème, c'est qu'après le MTL, ces trois tendances, et notamment dès qu'il va y avoir le déclenchement de la lutte armée, donc le 1er novembre 1954, le MTLD est interdit. Je crois que ça doit être le 5 novembre. Il y a un des militants, un des responsables qui est torturé. Enfin bon, bref, je ne sais pas sur les détails. Et Messaliadj remonte un mouvement. Le MNA, Mouvement National Algérien, qui va devenir l'ennemi fratricide donc, du FLN. Et donc il va y avoir, pendant la guerre d'Algérie, un conflit entre le MNA et le FLN. Le MNA perdra dans ce conflit et ça sera le FLN qui va sortir vainqueur. Et ceci peut expliquer aussi pourquoi finalement les manifestants de 1953 qui défilaient comme tous les militants nationalistes de l'époque, derrière le portrait de Messaliadj, pourquoi eux aussi, on ne les a pas honorés comme il le fallait, quoi. Voilà, je pense que ça a dû contribuer aussi à l'histoire, quoi. Parce que, pour eux, l'histoire officielle démarre le 1er novembre 1954, quand on prend la décision, un petit peu avant, juste pour la préparation. Mais bon, les manifestations qui avaient eu lieu avant, ça compte pas.
Très bien, c'était très intéressant. Et est-ce que le film, on va pouvoir le voir, ou est-ce qu'il y aura des rencontres? Enfin, j'imagine qu'il va y avoir des rencontres. Enfin, il y a déjà des rencontres qui ont lieu là en ce moment pour discuter autour du livre. Est-ce que vous avez quelques dates à nous donner?
Surtout, il va y avoir, c'est demain, mais bon, le 6 juillet, il y a un truc très important, c'est qu'il y a... Mon film n'a pas été vraiment encore distribué. C'est-à-dire que justement, maintenant que le livre paraît, je vais travailler à la d'un côté à la distribution du film et de l'autre côté, je vais travailler à la diffusion du livre, etc. Et bon, l'idéal, ça serait de trouver une manière un peu originale de faire sortir les deux, parce que les deux se complètent. C'est-à-dire que le livre va beaucoup plus loin, fouiller, etc. Mais en même temps, un livre, on ne voit pas les témoins. Alors que le film, ben, on voit les témoins, on voit les flics, on voit les gens qui ont pris des balles. Et voilà, on voit, enfin, j'allais dire de chair et d'os, c'est pas de chair et d'os, mais on peut sentir les gens, etc. Donc c'est la force de l'audiovisuel, quoi. Mais le livre va beaucoup plus loin dans l'analyse, dans tout ce qui s'est dit, etc. Et les deux se complètent. Donc je vais essayer de développer. Mais là, le 6 juillet, il y a quelque chose de très important parce que mon film a commencé à circuler dans plusieurs, depuis 2014, dans plein d'endroits militants, associatifs, etc. Et des élus communistes ont vu le film et ils ont décidé, comme ils sont au sein de la mairie de Paris, ils ont décidé de porter un vœu pour qu'il y ait une reconnaissance de ce massacre. Et donc, il va y avoir, la mairie de Paris va mettre une plaque à la mémoire de ces victimes. Donc, les familles des victimes vont venir. Je pense qu'il y en a 20-25 qui vont venir d'Algérie quand même. Voilà, je vais prendre la parole. Voilà, et je trouve que c'est un moment important qui est un petit moment d'histoire. Et...
Monsieur Daniel Kupferstein, réalisateur et auteur du livre « Les balles du 14 juillet 1953 ».
Alors, je remercie vivement la mairie de Paris pour avoir eu cette volonté de marquer d'une empreinte ce massacre oublié, en dévoilant cette plaque à la mémoire de toutes ces personnes tuées sans justice et à tous ces blessés qui n'ont jamais eu de reconnaissance. Même si je ne comprends pas bien pourquoi cette cérémonie a lieu un 6 juillet au lieu d'un 14 juillet. Je remercie également Nicolas Bonnet-Houlalde qui a été à l'origine du vœu déposé au sein du Conseil de Paris. Enfin, je remercie vous tous qui êtes venus ici et en particulier les familles des victimes de ce massacre. Elles sont assez nombreuses. Surtout celles et ceux qui sont venus spécialement d'Algérie. Voilà. En faisant ce film, Les balles du 14 juillet 1953, puis le livre qui porte le même nom, je n'ai jamais cherché à orienter mon travail dans un esprit de culpabilisation ou de repentance. Ceci étant dit, ce massacre est pour moi le symbole même d'un problème majeur de notre société. Pourquoi ? Parce qu'en 1953, il n'y avait pas de guerre d'Algérie, elle a commencé le 1er novembre 1954. Il n'y avait donc aucune justification, entre guillemets, pour tuer des gens qui défilaient pacifiquement dans une manifestation autorisée, légale, en plein jour, avec quasiment le même temps, à la différence des fausses justifications qui ont eu lieu plus tard lors des répressions sauvages par la police de Paris dirigée par M. Maurice Papon, le 17 octobre 1961 ou le 8 février 1962 au métro Charonne. Non, le 14 juillet 1953, il n'y avait rien de tout cela. Et pourtant, il y a eu ici, là, c'est juste là, en face, là, et là, autour de là, et surtout en face. Il y a eu 7 morts, et j'ai réussi à retrouver la liste de 50 blessés par balle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un vrai carnage. Ce drame confirme dans la tête d'un certain nombre de nos contemporains et de certains policiers qu'un individu n'a pas la même humanité, la même valeur qu'un autre. Ce drame, donc, nous questionne sur notre rapport à l'autre, à celui qui n'est pas comme nous ou qui fait partie d'une minorité. Hélas, cette question est toujours d'une brûlante actualité. Et nous oblige aussi à réfléchir au rôle de la France coloniale et à la colonisation en général. Enfin, pour terminer, je dirais que cette histoire est importante parce qu'elle s'est déroulée un 14 juillet, jour de la fête nationale, où la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, a été tachée de sang. En effet, ce jour-là, il n'y a pas eu de liberté, car on a tué en plein jour et sans sommation. Il n'y a pas eu d'égalité, car la justice n'a pas été rendue, mais remplacée par une manipulation d'État. Il n'y a pas eu non plus de grande fraternité, il y en a eu un peu quand même, car il y a eu peu d'entraide et aucune reconnaissance officielle du sort tragique des victimes avant cette première reconnaissance, 64 ans après les faits. Ces morts et ces blessés nous rappellent qu'il ne suffit pas de clamer les belles valeurs de notre République, mais que nous devons les faire vivre dans notre quotidien et dans nos actes.
Parti sur une idée un matin en me disant c'est maintenant ou jamais, et puis là il y a une concrétisation avec, bon alors c'est qu'une plaque hein, voilà, mais c'est un début de reconnaissance pour toutes ces victimes, et puis surtout ça veut dire que voilà, il y a au moins une trace et puis une empreinte, et puis voilà, l'histoire sera un peu plus connue. Après on verra avec le film, le livre, on verra les écoles, les machins, enfin on n'en est pas encore là quoi. Mais c'est déjà le début de quelque chose de très important. Voilà. Et donc à l'avenir, j'ai des dates qui commencent avec des bibliothèques pendant le mois du film documentaire, je commence à avoir plein de dates pour la rentrée. Comme il y a beaucoup de dates sur la région parisienne, que j'habite pas en région parisienne, c'est compliqué à organiser. Si on veut me voir, maintenant on peut. Je suis pas indispensable non plus.
Alors vous avez un site ou un blog où vous allez mettre toutes ces dates ?
Oui, j'ai un site où, avec mon nom, daniel-kupferstein.com, je crois, un truc comme ça, où il y a une bande-annonce du film, et je mets régulièrement toutes les projections, je les mets comme... je commence à mettre aussi... je n'avais pas très prévu, puisque c'est mon premier livre, hein, pour l'instant le seul, je n'avais pas tellement prévu de mettre des rencontres dans des librairies, etc. Je le mets aussi, évidemment, voilà. Et puis par Facebook, par mes amis, puisque j'ai plein d'amis chez Facebook. Voilà.
Bah merci. Hein. Thank you.